quel bonheur de vous retrouver en Alsace pour vos nouvelles échappées belles. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une exploration inédite. On va partir découvrir l'Alsace à travers ses villages. Il paraît que ces écrins sont les gardiens de l'âme et des traditions alsaciennes. Et de village en village, des passionnés m'attendent pour me présenter les secrets les mieux gardés de cette région. Ce qui m'intrigue avec eux, c'est aussi qu'ils réalisent le rêve de plus de 80% des Français, vivre à la campagne. Alors j'ai envie de savoir ce qui les rend heureux dans ce choix de vie. Et pour tout vous dire, j'ai vraiment hâte de leur poser cette question et de découvrir le meilleur de l'Alsace avec eux. Alors paré pour l'aventure, c'est parti !
Nous venons d'entendre la première minute de l'émission L'échappée belle consacrée à l'Alsace, diffusée le dimanche 22 septembre dernier sur France 5. 92 minutes de découverte d'un patrimoine magnifique, de paysages sublimes, de villages enchanteurs. 92 minutes qui permettent au narrateur de présenter la tradition alsacienne comme multiséculaire et en même temps d'une insolente jeunesse, où l'on entend une chorégraphe qui nous explique que la danse alsacienne évoque traditionnellement les événements historiques marquants et précise que la tradition évolue avec les danses nouvelles, où l'on entend le narrateur insister sur le fait que les villages ont su garder leur identité pour le plus grand plaisir des visiteurs. 92 minutes de reportage pendant lesquelles rien n'atteste une quelconque présence juive ni la laisse envisager. Certes, cette histoire des Juifs d'Alsace peut se retrouver au musée à Marmoutier, par exemple, ou au cours d'un parcours de randonnée autour de Rosenwiller, réputé pour son cimetière juif le plus beau d'Alsace. 6500 tombes y sont recensées. On peut aussi évoquer Rosheim, connu pour être le village de Rabbi Ossel de Rosheim, ce proche de Charles Quint, qui fut un grand chatelan, c'est-à-dire défenseur des Juifs de son temps auprès des autorités politiques. On peut évoquer encore des centaines d'autres villages d'Alsace, petits ou grands, des villes aussi où la présence juive fut très forte, et pourtant, comme dans ce reportage, on est souvent en face d'une absence criante et questionnante de cette histoire juive multiséculaire, ou alors on a l'impression que s'opère une distinction qui présente l'histoire de l'Alsace d'un côté et l'histoire des Juifs d'Alsace de l'autre. Freddy Raphaël, bonjour.
Bonjour.
Freddy Raphaël, c'est un très grand plaisir de vous retrouver cette semaine pour poursuivre notre conversation autour du judaïsme alsacien et des Juifs d'Alsace. Comment expliquer aujourd'hui, parfois, un silence total sur ce judaïsme alsacien, comme dans l'émission que je viens d'évoquer, où on a l'impression qu'il y a une séparation radicale des deux histoires?
Je suis absolument incapable de l'expliquer, parce que pour moi, c'est une lacune qui ne rejoint absolument pas ce qui se passe à l'heure actuelle. La plupart des localités, des bourgades, où il y a des traces juives, que ce soit des synagogues, que ce soit des cimetières, que ce soit des écoles, mettent en valeur ce passé juif, font appel à des historiens pour les documenter. Donc je suis tout à fait incapable d'expliquer un pareil oubli.
Pour vous, c'est un épiphénomène, c'est-à-dire que ce n'est pas l'ambiance que l'on rencontre dans l'Alsace, que ça soit dans les villes ou dans les villages, qui insistent donc sur cette mémoire juive qui en constitue leur propre identité.
Absolument, je pense qu'à l'heure actuelle, la plupart des bourgades et des villes, mais aussi à l'échelle du département, à l'échelle de la grande région, l'histoire et la culture juive font à leurs yeux partie du patrimoine alsacien, Grand Est et Lorrain. Donc, au contraire, je pense qu'il y a une volonté de redécouvrir cette culture, cette histoire, et de réfléchir dans quelle mesure elle féconde et l'histoire de cette région et l'histoire universelle plus large que vous avez évoquée.
Alors c'est en ce sens qu'il faut parler du colloque, du grand colloque qui se tiendra la semaine prochaine à Strasbourg, le 23 et le 24 octobre. Freddy Raphaël, quelques mots de présentation de ce colloque international où sont impliquées de nombreuses institutions et dont vous êtes l'un des instigateurs et surtout celui qui a proposé le programme de ce colloque.
Effectivement, j'ai été appelé par la région, et notamment par le directeur de la culture de cette région, Pascal Mangin, et par Émile Mallet, pour définir les lignes directrices de ce colloque, les axes, et quelque part aussi de proposer des intervenants. Et j'ai tenu absolument à ce qu'il y ait d'une part une réflexion sur l'engagement politique de juifs qui viennent de ces régions à l'échelle locale et à l'échelle nationale, mais aussi j'ai voulu qu'il y ait une évocation du rôle qu'un certain nombre de juifs ont joué dans la création des sciences sociales, de l'anthropologie. J'ai voulu aussi qu'il y ait toute une part consacrée à la créativité artistique dans différents domaines, littérature, peinture, et notamment dans la création de l'humour et la création du mime. J'ai voulu arracher cette histoire à la déploration, voir que c'est une histoire qui est aussi créatrice de vie, une célébration de la vie, et qui rejoint en quelque sorte le texte d'Alain que vous avez évoqué la semaine dernière, qui est une célébration du bonheur. Il y a un dur bonheur d'être juif en Alsace, et c'est une ouverture aussi sur l'universel, sur l'Alliance universelle juive, sur le sionisme et sur l'État d'Israël, en sachant en quelque sorte que c'était la terre promise est toujours à l'horizon de ce judaïsme, dans ses prières, dans ses rites. Mais en même temps, je dois dire que pendant très longtemps, ça a été un sionisme philanthropique, et que quelque part, ces grands juifs avaient créé en quelque sorte un havre dans l'exil. Ils étaient physiquement dans l'exil, ils vivaient cet exil comme quelque chose de positif et pas comme une amputation et comme un lieu. Et l'Israël n'était pas le lieu, la terre promise pour y revivre.
On voit beaucoup de textes où c'est l'Alsace qui est appelée Jérusalem et qui est appelée la terre promise.
Oui, ces textes que vous évoquez où l'Alsace est apparue comme est évoquée. Comme la terre promise, celle qu'il fallait reconquérir et celle qu'il fallait en quelque sorte féconder par le génie propre qui était le génie des Juifs.
Alors dans ce colloque, vous allez intervenir trois fois et l'une de vos interventions est consacrée à la figure du savant. La table ronde s'intitule « Le savant au service de la cité et d'une certaine idée de l'homme ». De quel savant s'agit-il ? En lisant cet intitulé, on pense bien sûr à cette grande lignée de sociologues, d'ethnologues et d'anthropologues et de philosophes qui comptent Émile Durkheim, Marcel Mauss, Lucien Lévi-Bruhl et Claude Lévi-Strauss, Frédéric Raphaël.
Tout à fait, je crois que la figure emblématique, c'est celle du fondateur Émile Durkheim de la sociologie et de l'école française de sociologie, figure emblématique dans la mesure où il est porteur d'une culture juive qu'il a eue de son père rabbin, 8 générations de rabbins avant lui, et qui quelque part ont imprimé leur marque dans sa sensibilité, mais en même temps, c'est quelqu'un qui veut étudier la religion comme la transcription en quelque sorte symbolique du lien social, qui est préoccupé à la suite de la défaite de 70 de recréer un lien social dans une nation qui se délite et qui appelle à la rescousse cette science nouvelle. Alors donc, une tension, j'allais dire, entre une rationalité et un attachement que je n'hésiterai pas à qualifier à certains moments de mystique.
On retrouve par exemple dans son célèbre livre sur le suicide une place prépondérante sur la question du judaïsme et en particulier de la communauté. Parce que parmi les critères et les différentes valeurs qui fait qu'on échappe au suicide, il dit que les personnes qui se suicident sont des personnes qui, en général, bien éduquées au sens d'avoir une formation intellectuelle forte et qui sont urbanisées. Et il se retrouve devant cette question. Pourtant, les Juifs, sont souvent urbanisées et ont une formation intellectuelle forte. Et pourtant, c'est une communauté dans laquelle il y a très très peu de suicides. Et là, sa réponse est, Freddy Raphaël.
Ben, sa réponse est que précisément, c'est une communauté, une minorité, qui vit d'une façon très forte un lien de sociabilité qui lui permet, et de solidarité, c'est ça là ce qu'il revendique pour la nation tout entière, et en quelque sorte qui fait que l'individu n'est pas lâché, perdu, erratique dans un monde qui n'est plus le sien.
Ça, c'est pour Émile Durkheim. Comment Marcel Mauss, Lucien Lévi-Brulle et Claude Lévi-Strauss ont continué à être dans cet éclat et en même temps dans cet écart? Comment le judaïsme fait fond dans leur œuvre?
Je crois que c'est très difficile de le résumer en quelques mots. Chacun, en quelque sorte, j'aime pas le mot négocier, mais chacun d'entre eux a établi un rapport personnel avec le judaïsme, dont souvent ce n'était pas, pour eux, souvent ce n'était pas la dimension essentielle de leur engagement d'homme, mais en même temps, c'est ce qui lui apportait une coloration particulière, j'allais dire une petite musique, et cela, ils n'ont pas voulu s'en défaire. Et en quelque sorte, il y a là une tonalité chez ces anthropologues, chez sociologues que vous évoquez, et aussi, je dois dire, peut-être, ce qui est très fort chez eux, et ce que vous évoquiez en introduction, c'est un souci de l'autre, de l'étranger, un souci du différent à rétablir dans sa dimension créatrice, de l'étranger, non pas seulement comme quelqu'un qui est mutilé, mais comme quelqu'un qui est porteur d'une culture et qui a un mal bien sûr énorme à transposer cette culture dans un monde autre. D'où l'actualité pour moi, à l'heure actuelle, où nous sommes face à des errants, déroutés, désorientés, cet énorme respect qu'on doit à ces hommes, à leur vie et à la culture dont ils sont porteurs, qui est pour nous, ça ne fait aucun doute, source d'enrichissement.
Vous faites allusion à cette fête de Soukhot évoquée la semaine dernière et qui continue ce soir, puisque nous avons les deux derniers jours de Soukhot avec Shmini Atzeret et Simchat Torah, la fête de la Torah, où on va recommencer la lecture du Pentateuch. Pour vous, la leçon que vous tirez de cette fête de Soukhot, qu'on a compris comme étant la fête de l'hospitalité, à l'heure actuelle, c'est justement ce regard sur ces migrants dont on a parlé, sur ces errants, comme vous dites, de manière différente. Mais comment, au-delà du regard et de la, je dirais, de cette empathie, comment cela se traduit d'un point de vue concret?
Je crois, d'un point de vue concret, il faut revenir précisément à la Soukha. La Soukha avait pour particularité de n'être jamais fermée. La porte était toujours ouverte. Chez mes parents venaient non seulement d'autres juifs en rendre visite, mais aussi les voisins non-juifs. D'ailleurs, ils étaient présents par ces voisins, par ce qu'ils avaient donné pour les coloquintes, les bouquets de blé, le maïs qu'ils avaient donné pour décorer la Soukha. Ils étaient présents par le sapin, les branches de sapin qui servaient, je veux pas dire de toit, mais qui par lesquelles on pouvait entrevoir le toit, mais qui apportaient cette odeur quelque part de la campagne. Donc l'autre était là, le paysage géographique, le paysage humain. Et je pense qu'à l'heure actuelle, bien sûr, je veux pas être un donneur de leçons faciles. Je sais que l'intégration est un problème difficile, mais je parle bien d'intégration des étrangers et non d'assimilation, comme pour les juifs. Et je crois que une éducation à la différence, y compris d'ailleurs, je dois dire, dans le monde juif qu'on a bien besoin, une éducation à la différence par les écoles, par les idéologues, qui sont sans à l'inverse d'un certain discours de haine qui s'affirme vraiment sans retenue à l'heure actuelle et qui ravive en quelque sorte pour moi la blessure que j'ai ressentie dans le lâchage qui s'était opéré lors de la Deuxième Guerre mondiale.
Ce colloque s'avère donc être très politique d'une certaine manière.
Je pense qu'à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas faire l'économie du politique, que quelque part, la politique, ça passe précisément par l'enseignement, par l'art, par la créativité littéraire, et en quelque sorte par le fait d'être conscient, y compris de la façon dont le judaïsme, par exemple d'Alsace et de Lorraine, n'a pas toujours été ouverte à l'accueil de l'autre, de l'étranger, revenir là-dessus et éduquer nos enfants, éduquer l'éducation en général, plus des efforts énormes pour trouver une place. Il n'est pas pensable qu'il n'y ait pas une place dans notre système économique, dans notre système éducatif pour les étrangers.
Souvent, je croyais que les poèmes et les proses avaient accompagné ma vie. Mais en réalité, je me demande aujourd'hui si ce n'est pas ma vie qui a accompagné pas à pas, pied à pied, dans les deux sens du mot pied, les poèmes. La mesure du poème, je crois, a dicté la mesure de ma vie et j'étais fait pour cela. J'obéissais.
Le point de départ, c'est l'Alsace. C'est le petit village d'Alsace où vous êtes né, vous apparteniez...
Ah, c'est une petite ville.
Une petite
ville. Ah oui, nous sommes très jaloux de notre qualité de petite ville.
Oui, c'est Bischwiller.
C'est ça.
Vous appartenez là à une communauté juive qui est installée depuis très longtemps, des deux côtés de votre famille. Il y a des générations et des générations.
Des siècles, 600 ans peut-être.
600 ans que vous êtes là. Et le point d'arrivée, enfin le point où vous êtes arrivé maintenant, c'est Jérusalem, c'est Israël.
Et vous savez... Jérusalem en Judée, Jérusalem en Alsace, pour moi je ne réussis pas trop bien à les distinguer. Ça a été toujours un peu la même chose. D'abord dans la nostalgie de l'exil aux États-Unis, et puis dans la rêverie de mes ascendants peut-être, ils ont tous rêvé à l'autre Jérusalem, tout en se sentant d'ailleurs, tout en se sentant chez eux en Alsace, puisque l'Alsace a été pour la communauté juive de là-bas, depuis toujours, comme on dit, un havre, une véritable patrie. Avec des enracinements profonds. Mais à partir de cette patrie terrestre, temporelle, c'est peut-être l'autre patrie, terrestre aussi et temporelle aussi, mais plus profonde, plus épaisse, plus fatale peut-être encore que l'Alsacienne. Et pourtant, Dieu sait que vivre en Alsace est un destin.
Pourquoi est-ce un destin? Enfin, je sais bien, sur le plan de
la police,
l'histoire,
oui, c'est ça.
Aussi, mais...
Et sur le plan de la civilisation. Oui. C'est un endroit c'est une province coincée entre deux univers culturels. Et... les Juifs qui sont en Alsace depuis des siècles, on prétend qu'ils y sont depuis l'époque romaine, ont participé à tous ces tiraillements. Et ils les ont peut-être vécus avec plus de conscience encore que les autres, à cause de leur destin juif. Alors, l'Alsace a été déchirée, elle a été rejetée par les remous de l'histoire. Nous avons vécu tout cela. Mon grand-père maternel ont servi... ils avaient, comme ils disaient, des pantalons rouges. Ils ont servi dans les dernières années du règne de Napoléon III. Puis ça a été le régime allemand, puis Hitler, la guerre, la persécution, l'extermination, et ensuite le retournement de 1945. Tout cela, nous l'avons vécu dans notre chair. Quant au destin de Jérusalem, qui sous-tend celui-là et qui le prépare de toute éternité, eh bien, c'est celui de tous les hommes, finalement.
Est-ce que vous voulez dire que le fait d'être Alsacien est aussi déterminant pour votre destinée que le fait d'être juif?
Je crois, puisque, au fond, ne fût-ce que du point de vue linguistique, les Alsaciens, les vrais, ceux de la campagne, enfin, ceux qui, comme moi, ont été élevés dans un petit endroit, ils parlent un dialecte. Et ils essayent de parler les autres langues selon les décrets de la politique européenne. C'est un destin juif, cela, n'est-ce pas? Il est très difficile pour un Alsacien de s'identifier totalement à soi-même. Enfin, qui est-ce? Le juif aussi. C'est la grande question de la judéité du XXe siècle, la définition du juif. Alors, de ce point de vue, enfin, je l'ai dit quelque part, être né juif et alsacien, c'est être doublement juif et doublement alsacien. Et je le sens ainsi, même à Jérusalem.
Nous venons d'entendre la voix merveilleuse de Claude Vigée, un grand parmi les grands, poète, écrivain et philosophe de talent, et surtout un mensch de talent. En l'écoutant, je me demande si nous n'avons pas tous quelque chose de Claude Vigée en nous, si nous n'avons pas tous, souvent sans le savoir, hérité de cette œuvre grandiose, Freddy Raphaël.
Je pense que nous avons tous quelque chose de vigé en nous, et notamment cette façon de rejoindre l'universel à partir du particularisme juif. Et j'en veux pour preuve que dans le dialogue que je poursuis avec Claude à l'heure actuelle, à peu près tous les 10 jours, 15 jours, nous nous rejoignons à travers le yiddish alsacien, qui est la langue de notre enfance et qui, dans son particularisme, quelque part, rejoint l'universel à travers une voie singulière. C'est là aussi la destinée juive. Et je crois que nous sommes des habitants de Jérusalem. Nous participons à cet état qui doit faire une place aux différentes cultures juives de la diaspora en y apportant notre petite musique à nous.
Alors, Claude Vigée a bientôt 100 ans. Oui. Ses poèmes sont édités, réédités en permanence. Et maintenant, ils sont retraduits en alsacien et en judéo-alsacien. Et je crois que pendant ce colloque, il y aura une session avec Anne Munich.
Anne Munich et Astrid Stark, qui évoqueront notamment la spécificité de l'œuvre de Vigée.
Alors Claude Vigée, qui nous amène par son nom même au temps de la guerre, en effet, c'est la guerre qui va conduire Claude Strauss, c'est son vrai nom, Strauss, à se choisir un nouveau nom. Racontez-nous un petit peu comment il choisit ce nouveau nom.
Il a choisi ce nouveau nom, si je ne m'abuse, en 1942, alors qu'il est à Toulouse. Il avait commencé des études de médecine et puis il doit les interrompre à cause du statut sur les Juifs. Et puis, il s'engage aussi dans la résistance. Et en quelque sorte, le « vie », c'est « Chai Ani », j'ai vie. Et en quelque sorte, c'est une proclamation précisément face à l'entreprise de mort dans laquelle sont embarqués non seulement les nazis, mais les sbires vichysois de nazis, l'affirmation que le judaïsme représente l'accueil et la célébration de la vie.
Vigée, j'ai vie, j'ai c'est, vie. Je suis vivant, et son œuvre est fortement vivante. Alors nous sommes dans le début de la guerre avec ce changement de nom. C'est aussi à cause de cette guerre que l'université de Strasbourg va déménager à Clermont-Ferrand, septembre 1939. Mmh. Dès la déclaration de la guerre, Strasbourg se vide de ses habitants et ses services se replient à l'intérieur du pays. Son université s'installe dans les locaux tout neufs de l'université de Clermont-Ferrand, avenue Carnot, nous disent les historiens. Les étudiants qui sont non mobilisés peuvent y poursuivre leurs études de sciences, lettres, droit, médecine, pharmacie, théologie catholique ou protestante. Ils peuvent faire aussi des études dentaires. Ceux qui n'ont rien trouvé chez l'habitant logent au foyer universitaire de la Gallia, à 14 rue de Rabanès. La vie s'organise, mais la guerre rattrape bientôt les réfugiés.
La guerre rattrape bientôt les réfugiés parce qu'une partie de ces étudiants et des professeurs vont entrer en résistance, vont essayer de s'organiser contre l'oppression intellectuelle, culturelle, vichysoise. Et malheureusement, parmi eux, il y a un traître et qui va dénoncer ceux qui sont engagés. Un certain nombre d'enseignants et d'étudiants vont ou le payer de leur vie tout de suite, un enseignant est abattu en plein cours, d'autres sont déportés pour justement avoir résisté à l'ordre vichiste qui s'impose et qui relaie l'ordre nazi.
Parmi ces enseignants, il y a Marc Bloch, qui va donner son nom à l'université de Strasbourg, qui s'appelle aujourd'hui l'université Marc Bloch. Et il y a un autre Bloch qui s'appelle Gilbert Bloch. J'aimerais que vous nous parliez de ces deux figures fondamentales, Freddy Raphaël.
Marc Bloch est quelqu'un qui échappera pendant un certain temps justement à l'expulsion pour avoir combattu pour la France, mais qui est une figure pour moi juive exemplaire dans la mesure où en pleine défaite, au moment où l'ordre nazi règne, va n'avoir de cesse dans la résistance que de prévoir une éducation nouvelle, un humanisme nouveau après la défaite inéluctable pour lui du nazisme. C'est un juif de l'espérance, c'est un juif de la solidarité au moment les plus sombres. Et d'autre part, l'autre figure que je connais moins, mais est celle de Gilbert Bloch, qui est quelqu'un qui a été un polytechnicien révoqué, pour qui, quelque part, n'avait pas de bagage vraiment juif, et a acquis en très peu de temps, auprès de gens aussi comme Flegg et les EI et
Gordin.
Et Jacob Gordin. Et Jacob Gordin va, et qui va payer son engagement de sa vie, il va donner le nom à l'école d'Orsay, qui est précisément un lieu de refondation du judaïsme français après-guerre.
Alors justement, l'après-guerre va retrouver ses rebâtisseurs. On vient de le dire, Marc Bloch va donner son nom à l'université de Strasbourg. Gilbert Bloch, comme vous venez de le dire, va donner son nom à une célèbre école qui va devenir le lieu de formation de ceux qui vont constituer ce que nous appelons aujourd'hui l'école de pensée juive de Paris et qui va redonner un nouvel essor à tout le judaïsme français et alsacien. Une synthèse entre les sciences de l'université et les textes de la tradition juive, créant une pensée originale, riche et féconde. Freddy Raphaël.
Tout à fait, mais je voudrais mentionner en même temps, parmi les refondateurs dans ces temps de détresse, d'une nouvelle communauté, malgré tout, d'une part l'enseignement de Lévinas et à Strasbourg, l'enseignement d'André Néer, qui va consacrer dorénavant toute sa recherche intellectuelle et spirituelle à définir un judaïsme présent à son temps, à poser les questions de l'heure en termes juifs, peut-être sans y apporter de réponse toujours, et dont le cheminement d'Aubernay à Jérusalem est exemplaire d'une certaine montée, d'une certaine alia de ce judaïsme d'Alsace-Lorraine.
Alors ça, c'est un thème qui sera profondément abordé dans le colloque que vous avez choisi d'en faire un des axes majeurs de ce colloque. Ce qui est important, parce que on cite souvent l'école de pensée juive de Paris, avec Lévinas que vous venez de citer, dont Néer fait partie, mais je crois qu'il est important de citer l'école de pensée juive de Strasbourg, dont André Néer, René Néer-Bernheim, son épouse, Benno Gross, que nous avons eu la chance de recevoir ici, Théo Dreyfus, ce sont les noms les plus connus, et nous en sommes d'une certaine manière aussi, pour la plupart, les héritiers, comme nous sommes les héritiers de l'école de Paris. Et ça, je crois que c'est important de le faire savoir.
C'est extrêmement important parce que eux-mêmes, Benno, Théo Dreyfus, Lucien Lazare et d'autres, Picard, ont été formés en pleine guerre à Limoges, au petit séminaire israélite de Limoges, au PSIL, qui a été créé et maintenu contre vents et marées par le grand rabbin Deutsch. Et je crois qu'il y a là une filiation qu'il faut assumer et qui nous oblige.
Alors, qui nous oblige, nous avons commencé ces deux émissions par la question de l'accueil et de l'hospitalité que représente la fête de Soukhot. Nous ne serions pas complets, je dirais, dans cette émission, si nous ne parlions pas du rôle essentiel et exceptionnel qu'a joué Strasbourg et l'Alsace dans l'accueil des Juifs d'origine d'Afrique du Nord à partir de 62 et l'exode des pieds noirs d'Algérie. Freddy Raphaël.
Je pense qu'effectivement, ce qui avait été plutôt malmené, à savoir l'accueil des Juifs venus d'Europe de l'Est pendant un certain temps, et d'Allemagne, eh bien, il y a eu, après 62, un accueil déjà avant pour les Juifs venus du Maroc après 57 et venus d'Égypte, puis d'Algérie. Je dois dire que ceux qui ont quelque part orienté, donné l'élan à cet accueil, c'est le couple André et René Néer, et puis c'est le président René Veil de la communauté à l'époque, ancien déporté, le rabbin Hazan. Et petite anecdote personnelle, en 62, j'ai été chez mes beaux-parents à Luxembourg, je reçois un coup de fil d'André Néer, il me dit « Freddy, où vous êtes ?» Ben, j'y suis chez mes beaux-parents, j'étais avec mes enfants. Ben, hein. Il dit « Oui, vous êtes à Luxembourg aujourd'hui, demain vous êtes à Strasbourg. » Et le lendemain, j'étais à Strasbourg en charge d'un lycée pour donner une éducation, un enseignement complémentaire à des jeunes venus d'Algérie. Mais c'est quelque part André qui m'a arraché à une certaine non-conscience d'une exigence que j'aurais dû avoir.
Merci Freddy Raphaël pour ces deux semaines passées en votre compagnie dans Talmudique. Merci de nous avoir éclairés sur toutes ces questions complexes avec autant de précision, d'enthousiasme et de clarté. Je rappelle le titre de votre livre « Les Juifs d'Alsace et de Lorraine » de 1870 à nos jours, paru aux éditions Albin Michel. Je rappelle aussi le colloque « L'éclat et l'écart » en chemin avec les Juifs d'Alsace et de Lorraine les 23 et 24 octobre prochains. On pourra vous y entendre live, si je puis dire, ainsi que d'autres dont je m'excuse de ne pas citer tous les noms, Émile Mallet, le grand rabbin Harold Avram Veil, Dominique Schnapper, Catherine Trautmann, Géraldine Roux, Denis Charbit, Salomon Malka, Cyril Aslanoff, Jean-Michel Rey et bien d'autres. Merci encore Freddy Raphaël, ce fut un vrai plaisir de vous recevoir et de vous écouter.
Merci à vous.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager et de Marc-Alain Wachnin. À la prise de son aujourd'hui, Sébastien Royer, à la réalisation, déjà sur le départ pour le colloque de Strasbourg, Dany Journaud. Toute l'équipe de Talmudique se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de Shmini Atzeret et Simchat Torah, qui conclut les fêtes de Soukhot et qui commence ce soir, Kol Tov, Leitraot. Au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.
Merci.